Et notre invité ce matin, dans le 8h30, on va parler d'économie avec Frédéric Cavallino. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Prendre une présidence d'une chambre consulaire en pleine crise sanitaire qui sévit depuis presque 2 ans, ça change la donne certainement sur les missions que l'on va développer.
Alors oui, un petit peu, mais disons que la crise sanitaire, bon, voilà, je pense qu'on est rodé. On a su accompagner les entreprises et faire nos preuves en fait depuis 2 ans. On a renforcé notre rôle de vigie et de référent de proximité pendant cette période-là. Et là, on est plus effectivement sur un travail de relance et d'après-crise ou de fin de crise que ce que l'on a pu vivre depuis 2 ans.
On peut parler de fin de crise maintenant. On commence à parler de fin de crise.
Je pense qu'on voit le bout du tunnel. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore certaines entreprises, et là je pense aux discothèques, à l'hôtellerie-restauration, qui ont certaines contraintes sanitaires encore. Mais on peut dire que les entreprises en général ont repris un rythme de croisière à peu près normal. Nos stations ont ouvertes, c'est Noël, les commerces fonctionnent, plus de contraintes de jauge, de couvre-feu, etc. Voilà, on revit.
Justement, par rapport aux boîtes de nuit qui ont fermé depuis vendredi dernier jusqu'au mois de janvier, l'UMI dans les Hautes-Alpes regrettait cette décision du gouvernement en disant très clairement, là, on va créer un désert économique dans ce type de secteur.
Alors, je comprends effectivement les propos de l'UMI, c'est très compliqué. Je pense que le gouvernement marche un petit peu sur des œufs. Je regrette effectivement qu'on ne soit pas encore tout à fait sorti de cette crise et qu'on ait des taux encore trop importants pour autoriser effectivement les discothèques à ouvrir, surtout sur une période de fin d'année avec les réveillons, avec les vacances, etc.
C'est là où elles font leur chiffre d'affaires souvent.
Alors j'espère que le gouvernement sera au rendez-vous et saura les aider comme il les a aidés précédemment pour qu'ils passent effectivement cette dernière vague peut-être.
Alors justement, est-ce que le gouvernement a assez bien joué son rôle dans la relance de la machine économique, voire même, sans parler de relance, dans le soutien d'abord de la machine économique, puis dans la relance de la machine?
Alors, unanimement, je pense que tout le monde sera d'accord que oui. Le gouvernement a joué son rôle, a mis de l'argent sur la table, a aidé, a accompagné, autant au niveau des aides que du chômage partiel, des prêts garantis, des reports de nouveau sur les prêts garantis. Donc, je pense que oui, l'État est là, oui.
Est-ce qu'il y a encore, ou est-ce qu'il y a eu un impact de cette crise sanitaire au niveau des entreprises, que ce soit au niveau simplement de la vie économique des entreprises, ou voire même de la création, de la reprise, de la transmission?
Alors oui, parce qu'il y a eu changement de comportement du consommateur. Je pense que tout le monde a changé ses habitudes de consommer, d'acheter, du coup, effectivement, de travailler. Les entreprises doivent s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement, d'achat et de consommation du client.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? On consomme plus local maintenant? Il y a eu une prise de conscience?
Alors oui, beaucoup plus local, les circuits courts, effectivement, une prise de conscience. On revient un petit peu sur des circuits courts et chez nous, effectivement, c'est quelque chose qui est assez important et qu'on arrive, alors dans des métropoles ou des grandes villes, c'est peut-être un peu plus compliqué De se fournir en circuit court. Chez nous, finalement, c'est très facile. Donc, on revient là-dessus. Et puis, alors là, je repense pareil à une clientèle active du midi, par exemple, sur la restauration. Aujourd'hui, les restaurateurs font beaucoup de ventes à emporter. Et finalement, la vente à emporter, qui était leur activité principale pendant les confinements, je veux dire aujourd'hui, garde de grosses parts de marché dans leur chiffre d'affaires.
On a réussi à s'adapter, finalement.
Tout à fait.
Et alors, selon l'INSEE, selon des chiffres qui ont été avancés en 2020, on n'a jamais autant créé ces dernières années dans les Hautes-Alpes. 2020, dans le 05, on a créé 1740 entreprises. 2019, c'était 1742, donc le niveau était à peu près similaire. Qu'est-ce qui explique cet élan?
Alors, comme toute période de crise, je pense que quand on tombe un peu bas, c'est le moment
d'y aller.
C'est le moment de rebondir, voilà. Je pense qu'il y avait des locaux disponibles, il y avait des aides de l'État. Je pense que c'était le moment. On était tombé bas et aujourd'hui, il fallait repartir, être optimiste, motivé. Je pense que ça a encouragé beaucoup de créateurs d'entreprises.
Et ça semble être le même élan pour 2021 aussi au niveau des créations d'entreprises, où il y a eu un petit ralentissement.
C'est un petit peu tôt pour le dire, mais peut-être un petit ralentissement quand même. Ouais.
Alors, dans ces entreprises qui sont créées, 22% dans l'hébergement et la restauration. On sait que c'est un secteur aujourd'hui qui subit une certaine crise, mais au niveau de la main-d'œuvre, la demande est là. mais par contre, la main-d'œuvre manque aujourd'hui, on peine à recruter. Est-ce que ça peut plomber l'économie alpine? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ce secteur trouve aujourd'hui la main-d'œuvre adéquate?
Alors oui, ça peut plomber, clairement. Pas que dans l'hôtellerie-restauration et dans tout secteur d'activité, il y a de gros problèmes de main-d'œuvre dans l'industrie.
Hein. Oui.
Aussi, c'est un des projets et de mes volontés sur ce mandat-là, en fait. Je pense qu'il faut travailler sur l'attractivité du territoire. La formation, continuer à développer. Alors, on a un pôle formation CCI qui est assez important entre le pôle de Briançon et le pôle de Gap, qui sont basés sur certaines activités, notamment effectivement la cuisine, l'hôtellerie, le tourisme, la montagne, et puis les métiers tertiaires. Voilà, je pense qu'il faut continuer à gonfler nos offres de formation, garder nos jeunes ici, créer de la main-d'œuvre à domicile et éviter déjà cette évasion. Après, il faut être terre d'attractivité. Il faut que des familles viennent s'installer chez nous. Il faut être assez attractif pour que... on a visité une usine à Vennes il y a peu de temps. On veut dire, ils cherchaient des soudeurs chaudronniers. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ils ont une entreprise qui est en plein développement. Ils agrandissent grâce au plan de relance. Tout va bien pour eux. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Voilà, donc aujourd'hui, il faut attirer, former des chaudronniers chez nous. Voilà, alors là, il y a un petit peu d'inertie, ça ne sera pas effectif tout de suite. Quoi. Et puis attirer
des familles chez nous. Comment on attire des familles et comment on garde les jeunes? Ça, c'est aussi toute la question.
Alors, garder les jeunes, on a parlé de formation, effectivement. Hein. Leur amener sur place une offre assez large pour éviter qu'ils s'en aillent faire leurs études à Grenoble, à Lyon, à Marseille.
Et leur dire qu'à l'issue de leur formation, il y aura un métier, un emploi.
Tout à fait. Et puis attirer des familles, voilà, on parle d'attractivité du territoire, on a... Sans être Chauvin, le plus beau département de France. Donc, je veux dire, on a tous les atouts en main pour attirer des gens chez nous.
Et comment aussi on arrive à convaincre les politiques? Parce que là, c'est presque un domaine qui est politique, l'attractivité d'un territoire. Et ça tombe bien, justement, on est en pleine période électorale. Il va y avoir les présidentielles, il y aura les législatives aujourd'hui. Comment on arrive aujourd'hui à dire aux politiques, oui, en effet, vous allez nous entendre, vous allez nous faire des promesses, mais elles ne seront peut-être pas tenues?
Alors, j'ai voulu, comme il y a 5 ans, une liste d'union. Voilà. Je pense qu'il est important de parler, de se concerter, de parler tous d'une seule et même voix. Et je pense aujourd'hui aux politiques, il faut leur présenter un schéma à long terme, une vision du département à long terme.
10 ans, 15 ans.
Oui, bien 10 ans, 10, 15 ans, ouais, tout à fait. Voilà, se servir de ce qui se passe ailleurs, dans les métropoles, amener une vision à long terme, leur présenter et en parler avec eux, voilà, très simplement. L'idée de l'union est de parler de tous d'une seule et même voix. Aujourd'hui, d'avoir l'UMI avec nous, avec la CCI, d'avoir la Fédé du BTP, d'avoir les commerçants, d'avoir l'hôtellerie de plein air, fait que on peut communiquer, on peut parler, on peut avoir des discussions, effectivement, sur cette évolution économique, sur l'attractivité, sur des problèmes d'enclavement, sur des problèmes économiques divers, tous ensemble. On parlait de main-d'œuvre, la main-d'œuvre, l'hôtellerie est concernée, le commerce est concerné, l'industrie est concernée. Voilà, il faut en parler librement ensemble. Réfléchir à des plans d'action à court, moyen et long terme et les présenter effectivement en politique.
Donc finalement, il faut présenter un scénario avec les solutions déjà toutes tracées. Presque.
Oui.
Presque. Et vous estimez que le monde politique peut être à l'écoute? Parce que Éric Gorde l'avait souvent regretté, en fait, votre prédécesseur, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, très souvent, il l'a dit, on assiste à une sorte d'inertie politique. Ça ne bouge pas, ça a du mal à bouger quand même, à entrer en émulsion.
Ouais, non, ça a beaucoup de mal à bouger. Après, Eric a su, était à l'initiative de cette union il y a 5 ans et a changé beaucoup de choses pendant ce mandat. Effectivement, ce qui se passait au début de son mandat et ce qui se passe à la fin et au début du mien, les choses ont changé. Voilà, aujourd'hui, je pense effectivement, on a su prouver qu'on était là, qu'on était terrain, on n'était pas là pour mettre la zizanie ou chambouler quoi que ce soit. On avait une vision économique claire.
Force de proposition.
Unie, voilà, et force de proposition.
Alors justement, dans les propositions, en tout cas dans ce qui est souvent avancé, ce qui revient très souvent, c'est ce fameux besoin de numérique. Daniel Margot, votre homologue dans les Alpes-de-Provence, président de la CCI dans le 04, disait qu'aujourd'hui, il fallait prendre ce virage du numérique. Éric Gorde l'avait dit aussi dans les Hautes-Alpes il y a quelques années en arrière, si nous n'allons pas dans le e-commerce, nous sommes morts. Est-ce que ce virage du numérique aujourd'hui, il est toujours en plein développement ou ça y est, il est enfin pris?
Alors plus que jamais, hein, la crise a par force, hein, a obligé les derniers peu ou pas équipés en numérique à le faire et à se former. Donc on est toujours en plein dedans. Il y a un côté aussi innovation dans le numérique. On a l'incubateur à Gap, la CCI de Gap qui fonctionne très bien. Non, le numérique, on est en plein dedans. Alors, le gros du travail a été fait. Voilà, la filière numérique a été lancée il y a 5 ans et le gros du travail a été fait. Mais c'est un travail. Le numérique bouge tellement tout le temps. Il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de remises à niveau. Les réseaux sociaux vont très vite, tout devient très vite obsolète. La communication, pareil. Donc, il faut se mettre à la page tout le temps.
Être réactif. Merci beaucoup Frédéric Cavallino, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Merci à vous.
Merci.